On se retrouve ensemble aujourd'hui pour une interview spéciale centrée autour de l'espace, des planètes, du climat et de la vie dans l'univers. On reçoit Patrice Javel au micro, chroniqueur pour cette émission. Bonjour Patrice.
Bonjour Mélissa.
Comment tu vas aujourd'hui ?
Ben ça va, on va parler de l'univers, donc tout va bien. On va parler de notre système solaire, peut-être de la recherche de la vie dans le système solaire aussi. Alors donc ça va être très intéressant, puis accompagné par le personnage de François Forger, je pense que ça va être très intéressant.
Et oui, comme tu l'as dit, on reçoit François Forger, astrophysicien. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Bah, très bien, très bien.
Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est en votre qualité d'astrophysicien, de directeur de la recherche du CNRS et membre de l'Académie des sciences. Vous êtes aussi mobilisé sur de multiples projets concernant diverses missions spatiales comme Mars Express, l'ExoMars TraceGas Orbiter, New Horizons, InSight ou encore le rover ExoMars. Vous êtes également climatologue des planètes et exoplanètes. On va revenir sur tout ça au cours de cette interview. Mais tout d'abord, première question, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste le métier d'astrophysicien ?
Alors moi, je suis pas tout à fait un vrai astrophysicien. Très souvent, je dis plutôt que je suis planétologue, c'est-à-dire j'étudie les planètes. La raison, c'est que si vous m'interrogez trop en détail sur les trous noirs et des choses comme ça, je ne serai pas très fort parce que à la base, mes études étaient plutôt sur des domaines plus proches de la Terre. Alors, et puis un jour, quelqu'un a créé une page Wikipédia, a décidé que j'étais astrophysicien et depuis, tout le monde dit que je suis astrophysicien. Mais bon, soyons honnêtes, j'étudie les planètes et les exoplanètes, donc quand même, je suis astrophysicien. Alors le métier, je suis chercheur, j'étais ingénieur dans le passé, j'ai travaillé dans diverses agences spatiales. Puis maintenant, je suis au CNRS, donc c'est le Centre National de Recherche Scientifique. Et vraiment, mon métier, c'est de faire de la recherche au sens où on essaye de rassembler les données des missions spatiales que l'on prépare et puis d'essayer de comprendre comment fonctionnent les planètes et de préparer les futures enquêtes qu'on va mener avec les robots et peut-être un jour avec les astronautes.
Alors, pour le commun des mortels, l'espace, c'est quelque chose de très lointain, d'inaccessible. Comment on explore le système solaire depuis la Terre, concrètement, d'un point de vue scientifique ?
Alors, historiquement, bien sûr, on l'a exploré avec des lunettes et des télescopes. Et puis, on continue à le faire, y compris avec des radiotélescopes et des télescopes géants, très performants, etc. Mais bien sûr, comme vous le savez sans doute, la grande révolution qui date des années 60-70, c'est l'envoi de missions spatiales, donc de robots, de sondes, qui parfois survolent simplement les planètes, des fois se mettent en orbite, donc ça se transforme en satellite d'observation. Et puis aussi, on arrive à faire descendre dans les atmosphères jusqu'à la surface certains robots qui vont se transformer en robots géologues avec des roulettes ou en robots stations météo, des choses comme ça.
Vous l'avez dit, vous êtes chercheur et vous avez soutenu notamment une thèse qui portait sur la planète Mars. Pourquoi Mars ? Qu'est-ce qui est intéressant concernant cette planète en particulier dont on parle beaucoup aussi dernièrement ?
Alors, je vais pas répondre pour moi, mais de manière générale, c'est vrai que Mars est un statut un peu à part parmi les autres corps, les autres mondes du système solaire. Alors, il faut savoir que les autres mondes du système solaire sont absolument fascinants, magnifiques et intéressants scientifiquement. Mais Mars est particulier parce que déjà, de tous les autres mondes, c'est celui qui ressemble le plus à la Terre par bien des points de vue. C'est une petite Terre désertique, Mars. Alors que si on prend l'autre voisine, par exemple Vénus, c'est vraiment un monde très différent avec une très épaisse atmosphère, il fait extrêmement chaud à la surface, etc. Donc, un de nos objectifs quand on dit les planètes, c'est de comprendre, finalement mieux comprendre notre Terre, un peu comme en médecine, on va étudier les autres animaux, la biologie des autres animaux pour mieux comprendre le corps humain, et bien étudier Mars, c'est un peu comme si on étudiait un chimpanzé, alors qu'étudier Vénus, c'est une espèce de poulpe bizarre, une méduse, un truc très très différent. Donc Mars, pour ça, est intéressant. Je peux ajouter un peu dans le même contexte un autre argument qui fait que Mars est très très particulier, c'est que donc, même si aujourd'hui Mars est une planète aride, sèche et froide, donc il n'y a pas d'eau liquide et on pense qu'elle n'est pas propice à la vie. Et par contre, on a découvert en regardant la géologie de Mars qu'il y a quelques milliards d'années, il y a longtemps, la surface de Mars était très différente. Il y avait des lacs et des rivières, peut-être même des mers d'eau liquide, comme sur Terre. Et peut-être que la vie est apparue à cette époque. Et donc, une des grandes enquêtes que l'on mène sur Mars, c'est de savoir ce qui s'est passé à cette époque-là et est-ce que la vie a pu apparaître, puisque à la même époque, d'ailleurs, la vie est apparue sur Terre. Donc, vous avez beaucoup de robots géologues, même des robots, on dit exobiologistes, bref, qui recherchent des traces de vie au fond des anciens lacs. Et puis, il y a une dernière raison, alors ça fait trois raisons. La dernière raison, c'est que à part la Lune, de tous les mondes du système solaire, c'est celui qui est le plus accessible pour de futures expéditions d'astronautes. Et donc, autant on peut pas aller sur Vénus, on peut pas aller près de Jupiter qui est vraiment trop loin, autant on envisage d'envoyer des astronautes sur Mars. Comme vous le savez, c'est un grand rêve.
Alors, François, bonjour. C'est Patrice au micro. Alors,
bonjour, Patrice.
Bonjour. Juste une question. L'eau serait restée combien de temps ? Ah, parce qu'il y a une évaporation des eaux. Ah, je sais que la couche atmosphérique, apparemment, aurait été soufflée par les vents solaires pour des raisons. On dit éventuellement que la magnétosphère aurait disparu et le vent solaire aurait soufflé l'atmosphère. La pression aurait baissé et l'eau se serait évaporée et de l'eau se serait réfugiée dans le sous-sol. Combien de temps cette eau elle serait restée sur Mars et est-ce que le temps qu'elle est restée, ce serait été suffisant pour qu'on puisse avoir l'apparition de bactéries ?
Il y a beaucoup de questions dans une seule question, l'air de rien. Mais l'image qu'on a de cette époque lointaine, ce serait qu'après un épisode de jeunesse, quand le soleil était extrêmement actif, ça je ne vais pas détailler, où il n'y avait peut-être pas d'atmosphère, il y a eu une espèce d'époque, un optimum climatique, où il y avait une atmosphère épaisse, et pour des raisons qu'on comprend encore mal d'ailleurs, il y avait donc des lacs et des rivières. Et ça a duré à peu près entre moins 3,9 milliards d'années et environ moins 3 milliards d'années. C'est quand même une longue durée. Puisque les planètes sont toutes nées en même temps il y a moins 4,5 milliards d'années. Et donc là, on parle de quasiment un milliard d'années. En réalité, bien sûr, ce qu'on ne sait pas vraiment, si c'était continu, s'il y avait tout le temps des lacs et des rivières, ou au contraire, si c'était épisodique, avec seulement de temps en temps des conditions climatiques qui permettaient d'avoir des lacs, des rivières et peut-être des mers. Ce que je dois ajouter, c'est que ce qui s'est passé ensuite, ce n'est pas tellement que Mars a perdu son eau. Il reste pas mal d'eau sur Mars sous forme de glace. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Mars a perdu son atmosphère, l'essentiel. Il reste plus que vraiment la pression sur Mars. Maintenant, c'est 1/100 de la pression sur Terre, donc c'est pas grand-chose, alors qu'à l'époque, ça devait être une pression comparable. Et donc, le vrai mécanisme qui fait que Mars n'a pas connu le dessin de la Terre et n'est pas resté propice à la vie avec des lacs et des rivières, eh bien, c'est que elle a perdu son atmosphère dans l'espace. Pas tellement l'eau, plutôt le CO2, le dioxyde de carbone, qui constituait l'essentiel de l'atmosphère.
Après Mars, on fait un grand voyage et on va vers des planètes un peu plus lointaines. On sait que Saturne et Jupiter, normalement, ne peuvent pas. Normalement, je dis bien le mot, n'est pas réservé pour dire absolument, n'aurait pas de traces de vie sur ces planètes gazeuses, mais sur des satellites de Saturne et de Jupiter, comme Europe, Ganymède ou Titan. On pourrait éventuellement rechercher des traces de vie. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Ça, c'est une des grandes découvertes depuis les années 80. Donc, c'est que autour de ces grandes planètes gazeuses, et vous avez raison, qui n'ont pas de surface, quoi. Il y a beaucoup de nuages, c'est de l'hydrogène, de l'hélium et quelques composés qui font des nuages. Donc, pour Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais autour, on a plein de mondes qui sont extrêmement riches en glace. On parle vraiment d'une croûte, plutôt d'un manteau de glace sur des centaines de kilomètres d'épaisseur. Et ce qu'on a réalisé, c'est que sur certains de ces mondes, bien sûr, ce qui est exposé à la surface est très froid, parce qu'on est loin du Soleil, 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre, pour Jupiter, 10 fois plus pour Saturne, etc. etc. Donc la température est typiquement de moins 100 ou moins 200 degrés selon la distance. Donc la glace est très froide à la surface. Mais si on descend à l'intérieur, au bout d'un moment, la température monte et on peut avoir une couche d'eau liquide. Et la grande révolution scientifique, ça a été de réaliser que, en fait, la température à l'intérieur de certains de ces corps est vraiment très chaude assez rapidement à cause de phénomènes de gravité liés à... Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le fait que ces petites lunes qui gravitent autour des planètes géantes, elles se perturbent les unes les autres, ce qui fait que des fois, elles s'éloignent un peu, des fois, elles se rapprochent un peu. Et ça fait l'équivalent des marées qu'on connaît sur Terre, les marées océaniques qui sont dues à la Lune, vous connaissez. Ça fait la même chose, mais alors puissance 10 sur ces mondes-là, et ça malaxe l'intérieur. Résultat, ça chauffe beaucoup. Et donc, on a pu montrer que sur certains mondes, les plus connus, les plus intéressants, c'est effectivement Europe autour de Jupiter et Encelade autour de Saturne. On pense que sous quelques kilomètres de glace, seulement quelques kilomètres, mais quand même quelques kilomètres, on a carrément un océan au-dessus d'une surface volcanique et tout. Donc là, vraiment, on se demande ce qui peut se passer là-dedans, dans cet immense océan d'eau liquide alimenté par des volcans. Donc il y a plein de toutes sortes d'éléments et de molécules qui sont là-dedans. Est-ce que la vie démarre? C'est une enquête qu'on a envie de mener. Évidemment, c'est difficile parce que pour faire un sous-marin qui pourrait aller là-dedans, c'est quand même au-delà de nos capacités pour l'instant, parce qu'il faudrait pas pénétrer la glace très froide sur des milliers de mètres de profondeur. Mais en attendant, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de trouver là où l'eau jaillit par des failles. Ça fait des geysers ou ça fait des dépôts. Et il y a plusieurs missions qui sont prévues pour aller analyser cette eau qui coule par les failles. Qui sait, on va peut-être trouver des crevettes, j'y crois pas trop, mais c'est ça l'esprit de l'enquête, quoi.
Parce que sur Europe, on a une mer qui est emprisonnée sous la glace. Est-ce qu'on ne peut pas penser que, comme dans les grandes profondeurs des fonds abyssaux, qui sont sous des pressions d'eau énormes et une lumière qui est relativement basse, puisqu'on est dans le noir complet, on ne pourrait pas avoir les mêmes spécimens avec des sources hydrothermales de fumeurs blancs et de fumeurs noirs si jamais on a un cœur qui est encore magmatique? Est-ce que ce serait envisageable?
Bah, on a envie d'y rêver, mais pour l'instant, on n'en sait rien du tout. On peut spéculer. La vie sur Terre est tellement spéciale, est tellement le résultat d'une évolution très longue et très particulière qui fait que, bah voilà, effectivement, on trouve parfois une vie abondante autour de ce qu'on appelle les fumeurs noires dans les régions volcaniques sous les océans terrestres. On pourrait se dire, bah oui, si on mettait ces êtres vivants-là sur Europe, ils seraient peut-être très contents. Mais en même temps, c'est issu d'une origine de la vie qui a eu lieu sur Terre, et on ne sait pas si elle a lieu sur Europe. Moi, je pense surtout que cette question, elle souligne le fait que c'est intéressant d'aller voir. Et c'est ce qu'on fait, mais il n'y a pas besoin de spéculer plus que ça, parce qu'on ne sait pas, on va mener l'enquête.
Vous dites que ce serait intéressant d'aller voir, ça me fait penser à ce projet qu'il y a d'envoyer donc des astronautes sur Mars. Quel regard vous portez sur ces futures expéditions et pourquoi aller sur Mars, ce serait quelque chose d'utile? Est-ce que c'est nécessaire?
Ça, c'est une excellente question. Alors, je peux commencer par répondre sur un point, c'est que les missions robotiques que l'on envoie, qui sont des missions scientifiques et dont le coût reste comparable à celui d'une grande expérience de physique ou un télescope ou des choses comme ça. Donc, c'est entièrement motivé par la science. Et vraiment, le rapport science-investissement, vraiment, vaut la peine. Maintenant, quand on envoie des hommes dans l'espace, que ce soit la Station Spatiale Internationale avec Thomas Pesquet, puis plus tard la Lune et Mars, dans un avenir plus ou moins proche, eh bien là, les coûts sont énormes. On parle de plusieurs centaines de milliards d'euros ou de dollars. Et là, la question se pose. C'est pas facile de se tourner vers des collègues physiciens et encore plus vers des collègues cancérologues pour leur dire, écoutez, soigner le cancer, c'est intéressant, mais nous, on a besoin de comprendre comment fonctionnent les cailloux sur Mars. Donc, il y a une question éthique. Alors, donc, est-ce qu'on peut justifier scientifiquement l'exploration humaine de l'espace? Et la réponse, je crois, est non. Malgré tout, à titre personnel, et surtout beaucoup, beaucoup de personnes sont un peu comme moi, et je ne sais pas si vous en êtes, on pourra débattre, eh bien, pense que, ah bah si, ok, même si scientifiquement, c'est un peu cher, il se trouve que c'est une fierté, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant pour nous, humains, que notre humanité entreprenne ces voyages très grands et c'est l'aventure du 21e siècle et du 22e siècle, etc., etc. Il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. Alors, il y a des arguments non scientifiques qui sont quand même rationnels. Par exemple, on va pouvoir motiver, créer des vocations chez les jeunes et pour chaque pays, avoir quelqu'un comme Thomas Pesquet, ça motive une grande fraction de la jeunesse, entre guillemets, à faire des maths, des sciences, de l'informatique, l'air de rien, et c'est hyper important pour l'avenir. Donc, c'est quantifié tout ça, et ça marche pas mal. Il y a aussi toutes les histoires de géopolitique, de prestige national, il faut pas... Actuellement, pendant les années 60, c'était la guerre froide, et donc les Américains avaient absolument besoin de devancer les Russes, etc. Et puis à présent, on a un peu la même chose, un peu différent, mais un peu la même chose entre l'Occident et les Chinois, on va dire. Donc il y a plein de raisons. Mais bon, bref, pour conclure, la science ne justifie pas tout. Mais j'ajouterai tout de suite que quand même, si on envoie des astronautes, on peut faire des sciences uniques, qu'on ne peut pas faire avec les robots. Les robots sont très lents, c'est très frustrant, croyez mon expérience. Et avec les astronautes, on peut faire en 2 minutes ce qu'on fait en un mois avec des robots, littéralement. Et puis, il y a certaines expériences que l'on peut faire qu'avec des hommes. Je vais vous donner un exemple. Sur Mars, je vous ai dit que la surface est actuellement sèche et stérile, il n'y a pas d'eau liquide. Mais il est possible qu'en profondeur, à quelques milliers de mètres de profondeur, il y ait des nappes d'eau liquide, des nappes aquifères. Sur Terre, dans ces nappes aquifères, il y a plein de bactéries. On a envie d'aller voir si une ancienne vie martienne aurait pu se réfugier là. Pour ça, il faut faire des forages profonds. On sait faire ça sur Terre, mais sur Mars, on ne peut pas le faire avec des robots. Il faudra des astronautes. Voilà le genre de projet qu'on a envie de faire. Mais ça coûte vraiment très cher.
Ça coûte vraiment très cher et c'est vrai qu'une autre question revient souvent dans ce débat. Est-ce qu'il faut aller sur Mars ou pas? C'est la question par rapport au fait qu'on sait qu'il y a une crise climatique aujourd'hui sur Terre, qu'on n'a pas pris soin de la Terre, pour le dire, pour le simplifier ainsi. Et c'est vrai que dire qu'on va, en quelque sorte, aller coloniser l'espace, des fois, ça fait un peu grincer des dents. Est-ce que, justement, aller à l'exploration de l'univers, d'autres planètes, ça pourrait nous permettre d'avoir un autre regard sur notre climat à nous et sur ce qu'on doit faire aussi sur Terre?
Alors, déjà, je vais répondre en deux parties. La première, c'est qu'évidemment, vous avez raison. Mars ou n'importe quelle autre planète n'est pas une planète B. C'est ridicule. Et je ne souhaite pas personnellement qu'on aille coloniser Mars. Je suis assez intéressé par l'idée d'envoyer une expédition scientifique, mais pas du tout d'aller le coloniser, d'aller polluer Mars après avoir été polluer la Terre. Quelque chose que je n'ai pas dit non plus, c'est que la priorité est évidemment de lutter contre la pollution et de protéger notre planète, de lutter contre la pauvreté, évidemment. Mais alors, j'ai dit que c'était cher d'explorer Mars avec des hommes, c'est cher par rapport à une expérience scientifique. Mais évidemment, les sommes d'argent sont bien plus faibles que celles qu'on investit pour essayer de protéger notre planète. Faut pas non plus. On ne sacrifie rien dans la protection de notre planète en envoyant des astronautes. Je vais quand même donner des ordres de grandeur. Tout le travail dont je parle, par exemple, pour préparer les missions astronautiques vers la Lune et Mars, c'est typiquement mené par la NASA. Le budget de la NASA, c'est 25 milliards de dollars par an actuellement. Le budget de l'armée américaine, c'est 800 milliards de dollars par an. Le budget des différentes instances climatiques, c'est pareil, c'est des sommes énormes. Donc, il faut quand même relativiser ce que j'ai dit. On ne sacrifie rien pour explorer. Par contre, j'ai envie de répondre aussi à votre deuxième question, parce que ça correspond à ma science au quotidien. C'est vrai que, personnellement, je suis climatologue des autres planètes. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notre grande motivation, c'est de mieux comprendre notre propre planète. Et il y a beaucoup de raisons dans notre quotidien de chercheurs qui font qu'en allant voir ailleurs, on apprend beaucoup sur notre propre planète et par exemple, on améliore les modèles qui sont utilisés par le GIEC, par exemple, pour essayer de projeter et prévoir l'avenir des différentes régions sur Terre. Ce sont des modèles numériques et on les teste sur les autres planètes. On apprend plein de choses en le faisant et on les améliore. Voilà le genre d'activité qu'on fait dans mon laboratoire.
Une autre question. Le voyage vers Mars est compliqué. Il faut envoyer des cosmonautes, des astronautes, des spationautes. Et c'est extrêmement, techniquement, extrêmement compliqué. Il faut envoyer évidemment des vivres. Et il faut envoyer un vaisseau qui décollera, on suppose, de l'extérieur de la Terre. Parce que faire décoller un vaisseau énorme, on ne peut pas le faire décoller de la Terre. Il y aurait trop de carburant nécessaire et ce serait impossible. On a les difficultés de l'ionisation qui est causée par le Soleil. Donc, on a des protections en dehors de la Terre qui sont énormes pour protéger les astronautes de vent solaire ou d'éruption solaire. Il y a plein de paramètres qui font que c'est devenu techniquement très compliqué. Est-ce que justement, c'est vraiment réalisable ou est-ce qu'on se bute à un mur ?
Non, pour moi, le bon message, c'est de dire que c'est faisable. Il y a un certain nombre de difficultés. Et la plupart du temps, ces difficultés se traduisent par beaucoup de travail pour les ingénieurs. Et beaucoup de travail pour les ingénieurs, ça veut dire beaucoup de salaires et donc d'argent à investir. Effectivement, vous l'avez résumé très vite, il faut un vaisseau spatial capable d'aller jusqu'à Mars, qui soit facile à réparer, qui recycle très bien l'oxygène et l'eau, et il faut pouvoir descendre à la surface de Mars, il faut vivre à la surface de Mars, il faut une fusée pour redécoller et il faut un vaisseau pour rentrer. C'est beaucoup de développement, mais technologiquement, on sait tout faire. Il y a quelques petites questions qu'on se pose encore, mais sur le danger, effectivement, de certains rayonnements pour la santé des astronautes, mais a priori, c'est résolu, quoi. Non, la grande difficulté, c'est l'investissement énorme qu'il faut faire, énorme, toujours pareil pour une agence spatiale, ce qui fait que ça prend du temps. mais on ne parle pas là de quelque chose d'impossible comme ce serait de voyager dans le temps ou de voyager vers une autre étoile. Hein. C'est quelque chose que
Oui, bien sûr.
c'est plus facile d'aller sur Mars en 2022 que de prévoir de décider d'aller sur la Lune en 1962. Hein. Or, les Américains l'ont fait. C'est vraiment beaucoup plus facile. Hein. Les technos sont là. Il faut juste rassembler tout ce qu'il faut.
Alors, une autre question. Après Mars, après le système solaire, l'exploration des autres planètes, quand on sera allé sur Mars et qu'on aura la possibilité d'avoir des vaisseaux fiables pour aller très loin, est-ce qu'on peut envisager un jour de voyager très loin et d'aller explorer, bien sûr, des exoplanètes proches, je dis bien proches? Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est de la science-fiction?
Alors là, vous parlez d'aller explorer des autour, pas, non pas les planètes de notre système solaire, mais au-delà, oui. Eh bien, c'est vraiment, ça paraît complètement impossible. Autant, vous voyez, j'étais plutôt positif sur le fait qu'on pouvait aller près de Mars. Envoyer une mission humaine et même une mission robotique près d'une autre étoile, c'est une difficulté effarante. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement loin. Il faut se rendre compte que, par exemple, Mars est à entre 5 et 20 minutes lumière, hein, si je parle, traduis les distances en temps lumière. L'étoile la plus proche de notre Soleil, c'est Proxima du Centaure. Il y a une planète très intéressante, Proxima B, on l'appelle, mais c'est à 4 années-lumière. Ça veut dire quoi? On ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que si on prend la sonde la plus rapide qu'on a jamais envoyée, ça s'appelle Voyager 1, et qu'on l'avait dirigée vers Proxima, eh bien, elle mettrait 70 000 ans pour y arriver. C'est vraiment difficile. Alors après, vous pourrez dire, ah, mais peut-être que dans un avenir proche, ou plus ou moins proche, on va inventer un système de moteur-fusée plus performant, etc., etc. Franchement, on n'a pas trop d'idées. Il existe une spéculation assez amusante pour envoyer des micro-sondes de 1 gramme en une vingtaine d'années, en utilisant des gros lasers qui tireraient sur une voile solaire et qui l'accéléraient très longtemps. Mais après, on survolerait le système de Proxima en quelques minutes, quoi. Voilà le genre d'idée qu'on a. Mais bon, c'est une difficulté effarante. Et même, l'air de rien, hein, d'aller explorer avec des astronautes quelque chose au-delà de Mars, par exemple les lunes de Jupiter, ça paraît déjà vraiment difficile parce que bah, pour aller sur Mars, il faut 6 mois. Pour aller jusqu'à Jupiter, il faut plusieurs années. Donc tout de suite, c'est des expéditions très longues. Et on le sait depuis longtemps, hein, il y a des films de science-fiction historiques comme 2001 Odyssée de l'espace qui racontent exactement ça.
Et pour continuer à parler de technologie, revenir un peu sur Mars par exemple, aujourd'hui, quelle est la durée de vie d'un robot qu'on envoie dans l'espace?
Alors, on a des sondes spatiales, donc des satellites par exemple autour de Mars, qui fonctionnent encore et qui sont là. Moi, je travaille sur une mission qui s'appelle Mars Express européenne. On l'a lancée il y a 20 ans. Donc elle est là depuis 20 ans à peu près, elle fonctionne bien. À la surface, vous avez des robots comme par exemple Curiosity. Souvent les gens connaissent, c'est un gros robot avec 6 roues, assez spectaculaire. Il fonctionne depuis 10 ans. Donc on arrive généralement à fonctionner ouais, 10, 20 ans avec certains de ces robots. D'autres ont des durées de vie plus courtes, bien sûr, mais c'est quand même des choses qui sont assez fiables. Donc ça nous occupe longtemps et on explore comme ça dans la durée les autres mondes.
Et alors, je ne sais pas si c'est le cas, vous me direz, mais aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle qui se développe à grands pas. Est-ce que cette intelligence artificielle aura peut-être un rôle à jouer dans l'exploration spatiale ou peut-être qu'elle joue déjà un rôle?
Ah, le rôle est encore un peu timide. Certains l'utilisent pour l'analyse, hein, donc pas à bord des missions spatiales, pour l'analyse de certaines données. Mais bon, c'est pas évident. Peu à peu, ça va monter à bord des sondes. Je peux vous donner un exemple. Personnellement, j'ai la chance de travailler sur une mission destinée à aller explorer, à descendre dans l'atmosphère de Vénus. Ce sera en 2031 on est en train de la construire, hein, le temps qu'on la lance et tout. Et sur cette sonde, c'est une mission qui s'appelle Da Vinci. Et un des instruments qu'on a mis là-dessus, il est prévu, c'est un démonstrateur technologique, que le traitement des données soit fait avec un système d'intelligence artificielle. Mais je vais être honnête, c'est vraiment le début. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui est électronique, informatique, dans les vaisseaux spatiaux et surtout dans les sondes spatiales, c'est toujours un petit peu arriéré, un peu ancien. On veut que ce soit très robuste, que ça résiste au rayonnement. Un petit peu dur, hein, les différentes particules dans l'espace, particules les particules énergétiques qui viennent du soleil, par exemple, peuvent attaquer l'électronique. Donc, tout est un peu blindé, très, très résistant. Et franchement, les ordinateurs qui sont à bord de certaines vaisseaux spatiaux qu'on lance, ils sont moins puissants que votre téléphone portable. Donc, c'est toujours un petit peu ringard, un petit peu ancien. Mais on commence doucement à réfléchir à l'intelligence artificielle à bord.
Alors précédemment, vous nous avez dit que l'exploration spatiale, c'était quelque chose bien évidemment de grandiose et qui peut motiver les foules, motiver la jeunesse. On pense par exemple à Thomas Pesquet, qui est une personnalité très inspirante pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est quoi la position de la France dans le domaine de l'exploration spatiale? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la NASA, c'est la référence. En tout cas, c'est une vision que l'on s'est construit toutes et tous médiatiquement. Mais est-ce que la France en sort plutôt bien aussi au niveau de l'exploration et de tout ce qui a trait à l'espace?
Oui, oui, tout à fait. Il y a une tradition française d'investissement et d'intérêt de beaucoup d'ingénieurs et de chercheurs dans le spatial. Alors, comment ça se passe? On met à peu près une... On travaille en collaboration avec nos collègues européens et donc une grande partie de nos ressources vont pour se mettre ensemble dans l'Agence spatiale européenne. Et dans ce contexte-là, on a à la fois des missions robotiques très performantes, on en lance régulièrement, je pourrais faire une longue liste, tout le monde a entendu parler de... J'ai parlé de Mars Express, Rosetta, on va lancer bientôt une mission vers les lunes de Jupiter qui s'appelle JUICE, là dans quelques semaines, sur Ariane 5, le dernier Ariane 5, etc., etc. Côté exploration humaine, là, la question est intéressante parce que c'est vrai que contrairement aux Russes, aux Chinois et aux Américains, on n'a jamais développé de capsules ou de vaisseaux spatiaux pour les humains. Mais bon, on s'investit quand même, et en particulier si on prend par exemple le programme Artemis, c'est-à-dire ce renouveau de l'exploration vers la Lune, qui comprend différents composants. Il y a une nouvelle méga-fusée qui s'appelle le Space Launch System, SLS, la capsule Orion. On prépare une petite station spatiale autour de la Lune qui s'appellera le Lunar Gateway. Et après, on va mettre des astronautes sur la Lune. Eh bien, l'Europe est très impliquée. Par exemple, la capsule Orion, contrairement vraiment à la capsule Apollo historique, plus de la moitié est construite en Europe. On fournit le module de service, tous les systèmes de puissance électrique, de respiration, de recyclage de l'eau et tout, c'est fourni par l'Europe. Sur le Lunar Gateway, on fournit près de la moitié des composants. On fournit deux modules dans cette petite station spatiale. À la surface, on développe un système de modules lunaires qui apportera du matériel à la surface. On l'appelle Argonaut. Autrefois, c'était EL3. Et grâce à cela, cette forte implication, l'exploration de la Lune qui est en cours, vous entendrez peut-être parler dimanche après-midi, vous avez le retour d'une capsule Artemis qui a fait plusieurs fois le tour de la Lune. Alors, il n'y a pas encore d'astronautes, mais c'était une répétition qui va revenir dimanche avec le module de service européen. Eh bien, tout ce programme Artemis va impliquer des astronautes américains, mais quelques astronautes français. Et évidemment, on peut parier que Thomas Pesquet va aller autour de la Lune et peut-être même sur la Lune, comme un astronaute des années 60.
Et est-ce que les agences spatiales collaborent entre elles ou est-ce qu'elles se tirent la bourre? Est-ce qu'il y a une concurrence? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que, on prend l'exemple le plus connu, quand on est allé sur la Lune, c'était donc les Américains, ils ont planté le drapeau et on a l'impression qu'il y a une sorte de compétition à qui va aller le plus loin, le plus rapidement possible. Est-ce qu'aujourd'hui cette vision-là a un peu changé? Est-ce qu'il y a davantage de collaboration ou toujours plus de concurrence qui peut-être un moteur pour faire avancer la science?
Alors, il y a eu évidemment énormément de concurrence dans les années 60-70 entre les Soviétiques et les Américains. Récemment, c'était plutôt vraiment une ère symbolique de grandes réunions, puisque la Station spatiale internationale réunit l'Europe, les États-Unis, le Japon et la Russie. Et encore là, au moment où je vous parle, vous avez des astronautes américains, européens et des cosmonautes russes qui vivent ensemble tous les jours, avec des opérations qui sont faites de manière alternée. Enfin, quelques heures à Moscou, quelques heures aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Donc, il y a une vraie coopération. À l'avenir, il y a un petit peu quand même l'émergence d'une grande puissance, la Chine, qui est vraiment un programme très ambitieux. Ils viennent de terminer une grande station spatiale. Regardez sur Internet, c'est fascinant. Récemment, il y avait encore 6 astronautes chinois, on dit des taïkonautes. Il y en a 3 qui viennent de descendre, mais ça y est, ils ont une station pour rester plus de 6 mois à chaque fois. C'est vraiment, ils rivalisent maintenant. Ils envisagent d'aller vers la Lune, etc., etc. À l'heure où je vous parle, il y a le grand programme américain très en collaboration avec l'Europe et le Japon et le Canada. Et puis, vous avez les Chinois qui, dans leur coin, développent leur projet. Et évidemment, les Russes, dans la situation actuelle, ne peuvent plus travailler avec nous, entre guillemets, ils se rapprochent des Chinois. Alors ça va durer un temps. C'est vrai qu'il y a une vraie tension qui est rare entre, disons, Américains et Chinois. Nous, en Europe, c'est un peu traditionnel, on fait le lien. Moi, j'ai travaillé un peu sur les sondes martiennes de Chine, par exemple, alors que mes collègues américains n'ont pas le droit de le faire. Donc, il y a quand même un esprit de collaboration au quotidien entre les chercheurs et les ingénieurs, mais bon, au niveau national, il y a quand même une petite défiance. Mais moi, j'espère, je rêve, là, un peu naïf, un peu bisounours, que quand on prévoira une grande mission vers Mars, ce sera l'occasion à nouveau de réunir tout le monde et un peu comme la Station spatiale internationale à la fin de la guerre froide, de montrer la fin d'une tension, d'une rivalité Chine-Occident à ce moment-là.
Peut-être une dernière question pour toi, Patrice, et une
Oui.
dernière question après pour moi également.
Oui, justement, une question un peu plus ambitieuse, qui relève plus de la science-fiction, je dirais, parce que tout le monde me connaît pour étant quelqu'un qui va un peu loin, des fois, dans le questionnement. Est-ce que vous pensez que si des civilisations existaient éventuellement, et je pense qu'on n'est pas les seuls, parce que l'univers est immense et des exoplanètes, il y en a partout. On ne serait pas les seuls éventuellement dans l'univers. On aurait peut-être même de la vie très intelligente et même peut-être même plus évoluée que la nôtre. Est-ce que ces civilisations, on pourrait avoir l'idée comme nous de voyager? Et c'est une question plus, je dirais, philosophique en fait, et de venir vers la Terre nous voir. Est-ce que ça paraît probable ou est-ce qu'aux yeux d'un scientifique comme vous, ça paraît de la science-fiction?
En fait, j'adorerais que ce soit vrai. Donc, on est extrêmement ouvert à des indices qui pourraient aller dans ce sens-là, y compris on peut écouter d'autres systèmes planétaires avec des radiotélescopes pour voir s'ils ont la télé ou des choses comme ça. Mais on trouve rien. Et en fait, comme j'ai un grand avantage par rapport à vous, c'est que j'ai la chance de faire partie d'une génération qui, en fait, n'a pas besoin de conclure. Pourquoi? Parce qu'on peut agir. On peut mener l'enquête actuellement. On peut mener l'enquête en regardant si autour des autres étoiles, on a des planètes qui peuvent être propices à la vie. On peut essayer de voir ce qui peut s'y passer dessus. On peut aussi explorer dans le système solaire, comme je l'ai évoqué, essayer de voir si la vie démarre facilement quand il y a de l'eau liquide, soit sur Mars autrefois, soit sous la croûte des lunes glacées. Et donc, je botte en touche, mais alors ce n'est pas du tout une réponse tiédasse. Je botte en touche en disant on n'en sait absolument rien. Et on peut toujours spéculer, mais ça ne sert à rien parce qu'on est complètement naïf. En tant qu'homme du XXIe siècle, on est certes nourri par la science-fiction, mais chaque jour, on fait des découvertes qui nous disent que l'image qu'on avait des autres systèmes planétaires, de comment fonctionnent les planètes, comment fonctionne la vie, c'est faux. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir agir. Ça ne m'empêche pas d'adorer la science-fiction. Et puis comme ça, je peux ne pas répondre à la question du tout. Et en particulier, je ne sais pas du tout si la vie ailleurs est abondante ou au contraire si la Terre est complètement exceptionnelle. Si on réfléchit 3 minutes, on se rend compte que, évidemment, ça nous heurte. Nous, enfin, beaucoup de gens avec du bon sens disent, ouais, vu le nombre d'étoiles dans la galaxie, il y en a des centaines de milliards, ce serait quand même incroyable qu'il n'y ait pas de la vie quelque part. Mais en fait, on n'en sait rien du tout et on mène l'enquête. Et évidemment, on a un biais parce qu'on se dit, ah, mais pourquoi la Terre serait particulière? Eh ben non, la Terre est peut-être incroyablement particulière, mais c'est pas par hasard qu'on est dessus. On est dessus parce que voilà, elle est particulière. Voilà. C'est une réponse un peu alambiquée, mais c'était ma réponse.
Merci François, merci.
Et moi j'ai une dernière question un peu plus terre à terre. Est-ce que vous avez un conseil pour des jeunes, par exemple des étudiants, des étudiantes qui souhaitent se lancer dans le domaine, dans l'étude de l'astrophysique, de la planétologie, de l'espace?
Ouais, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir comment dire? Personnellement, quand j'ai fait mes études, je ne savais pas du tout qu'on pouvait être astrophysicien. Je me souviens avoir croisé un de mes collègues, un camarade à l'époque, qui m'avait dit je vais faire astrophysicien. Il m'aurait dit je vais faire rockstar ou vedette à Hollywood. Ça m'aurait fait le même effet, quoi. En réalité, c'est tout à fait faisable. Ce qu'il faut faire, c'est des études scientifiques. Ça peut être des maths et de la physique. Pour l'astrophysique, c'est important, mais ça peut être aussi de la géologie, hein, à un bon niveau. Et puis, on n'a pas besoin de décider tout de suite qu'on va faire ça. On peut faire par exemple, des études d'ingénieur, des vraies bonnes études d'ingénieur, et ce n'est qu'à la fin des études qu'on va hop, bifurquer et aller faire, exemple, un master 2 d'astrophysique ou de planétologie. C'est juste une année en plus. Et ensuite, on va faire une thèse, comme ça qu'on devient chercheur, on fait une thèse de doctorat. Alors, c'est pas, on n'est plus étudiant à ce moment-là, on est salarié, on est juste débutant, chercheur débutant, on apprend, mais on travaille. Et donc, il suffit de faire ça. Donc, la réponse, en deux mots, pour faire des études scientifiques, quelles qu'elles soient, bifurquer à un moment, ça peut être juste à Bac plus 5, vers un Master 2 en lien avec cette recherche, et on essaie d'être chercheur dans cette catégorie-là. Alors, tout le monde n'y arrive pas, mais les gens qui sont à peu près, qui sont curieux et motivés, et puis pas mauvais en maths, par exemple, maths physique, ils y arrivent.
Bien, merci beaucoup pour les conseils et merci beaucoup pour cet entretien, cette interview.
Merci François, merci d'avoir accepté cette interview exceptionnelle.
Merci.